Le cerveau de l'intelligence artificielle chez Facebook, pionnier du deep learning, cette méthode d'apprentissage où la machine apprend par elle-même, passé par les universités de Toronto, de New York et le Collège de France, où il a été titulaire de la chaire tournante informatique et sciences numériques en 2016. Yann Lequin est aujourd'hui l'invité de la grande table des idées. L'intelligence artificielle, sans foi ni loi, dans la plus belle histoire de l'intelligence, entretien avec le psychologue cognitiviste Stanislas Dehaene, mené par Jacques Girardon, paru chez Robert Laffont. Ce spécialiste des neurones artificiels nous conte une longue histoire des origines de la vie jusqu'à aujourd'hui, entre découvertes et questions éthiques. Bonjour Yann Lequin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Longtemps perçu comme indéfinissable, voire l'indéfinissable, l'intelligence, jugée à l'aune des actions qu'elle entraîne, plus que pour elle-même. Est-ce que l'intelligence reste aujourd'hui encore un mystère? Et un mystère pour vous?
Oui, c'est un mystère. C'est un des plus grands mystères scientifiques d'aujourd'hui, avec le mystère de l'univers, de la physique, de la vie, et l'intelligence est une des grandes questions scientifiques d'aujourd'hui.
Alors vous avez retracé cette histoire ensemble avec Stanislas Dehaene. Jusqu'où êtes-vous remonté pour déceler les premières traces d'intelligence? Quelles sont les premières empreintes laissées sur cette Terre par une intelligence?
Alors dès qu'il y a de la vie, il y a un petit peu d'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence à laquelle on a l'habitude avec un cerveau, mais un être unicellulaire a une certaine intelligence, peut réagir à sa perception et prendre des actions qui lui permettent de survivre. Donc c'est une forme très élémentaire d'intelligence. Mais on assiste à l'apparition de l'intelligence un petit peu plus similaire à ce dont on a l'habitude aujourd'hui, à l'époque précambrienne, où les animaux commencent à avoir des organes sensoriels et puis doivent pouvoir traiter l'information, et le cerveau apparaît à ce moment-là.
Est-ce que cette longue histoire de l'intelligence, c'est une histoire linéaire, une sorte de grande ligne, une route droite qu'elle a suivie, augmentant de décennies, de siècle en siècle? Et est-ce qu'elle est toujours liée à l'homme?
Pas du tout. Il y a eu beaucoup d'essais et d'erreurs dans l'intelligence. Il y a eu l'intelligence animale. Il y a eu beaucoup de types différents d'intelligence qui existent encore aujourd'hui. Donc, par exemple, l'intelligence d'une pieuvre, qui est probablement un des animaux les plus intelligents. Ce sont des invertébrés.
Plus que l'huître.
Beaucoup plus que l'huître.
Beaucoup plus que l'huître.
L'huître n'a pas vraiment de cerveau. Il y a un petit système nerveux, mais pas vraiment de cerveau. Les pieuvres sont très intelligentes, elles ne vivent pas très longtemps, elles ont une intelligence distribuée, c'est-à-dire que leur cerveau est un petit peu distribué dans tout leur corps, montrent des capacités de résolution de problèmes, etc., qu'on ne constate par ailleurs que chez les mammifères et chez certains oiseaux.
Quelles ont été les principales erreurs? Vous évoquiez des erreurs dans ce récit de l'intelligence.
Alors, pas des erreurs, mais il y a bien sûr des branches de l'évolution qui se sont éteintes d'être relativement intelligents, mais qui n'ont pas su s'adapter au changement de leurs environnements. Plusieurs espèces de grands singes ou avant l'humanité qu'on connaît aujourd'hui.
Stanislas Dehaene et vous montrez bien que notre perception, notre définition de l'intelligence a beaucoup changé, évolué dans les dernières années, et notamment avec l'apparition de l'IRM, de l'imagerie médicale aussi, qui nous a permis d'avoir une image du cerveau. Qu'est-ce qu'on a découvert à travers cette nouvelle technologie?
Alors, il y a une quantité d'informations sur le fonctionnement du cerveau qui est en train d'être collectée, qui est phénoménale, mais on a relativement peu de principes pour l'expliquer, de principes organisateurs. Et un phénomène qui s'est produit ces dernières années est qu'on utilise des modèles informatiques un petit peu, donc qui sont construits pour des applications, principalement, donc des modèles d'intelligence artificielle qui sont basés sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones, qui sont un petit peu inspirés de la vie, mais qui permettent d'avoir une espèce de modèle mental de ce qui se passe dans le cerveau. Donc par exemple, on peut, dans une certaine mesure, expliquer un petit peu comment fonctionne le cortex visuel qui nous sert à percevoir à travers nos yeux, par ces modèles informatiques qui sont faits pour la reconnaissance d'images.
Et vous vous penchez encore beaucoup sur ce que nous apprend l'imagerie médicale? Ça vous sert au quotidien?
Alors les neurosciences et les sciences cognitives en général, oui, l'imagerie médicale fait partie de ça. Mais l'imagerie médicale est très limitée, parce que ce qu'on peut obtenir avec une IRM fonctionnelle, par exemple, c'est le degré d'activité d'un gros groupe de neurones, de plusieurs millions de neurones, et qui est reflété par l'afflux de sang dans ce circuit local. Donc c'est un petit peu comme un de mes collègues dit, c'est un petit peu comme essayer de comprendre l'industrie automobile en regardant des photos satellites par infrarouge. Donc on voit qu'effectivement il y a une activité qui se passe autour de des usines Renault, Ford, etc. Mais ça nous permet pas de tout comprendre. Donc c'est un petit peu le problème qu'on a avec l'IRM.
Mais c'est aussi un problème que vous avez eu dans ces dialogues, ces conversations avec Stanislas Dehaene, que vous devez bien connaître aujourd'hui. Est-ce que vous parlez la même langue tous les deux?
Alors, oui et non, en ce sens que au départ, on a eu des motivations très similaires. On se connaît depuis 1986, donc ça remonte à très loin. On était tous les deux étudiants.
C'était la maternelle, ça, non, 86. En maternelle, vous vous êtes rencontrés quasiment.
Non, je suis pas si jeune que ça. Malheureusement, j'étais déjà en doctorat. D'accord. Lui était en deuxième année de l'école normale supérieure, donc dans son premier cycle universitaire. Et on s'est rencontrés à une école d'été aux États-Unis, qui était un des événements fondateurs, un petit peu, de la communauté de recherche de gens dans le domaine qui essayaient justement d'étudier les réseaux de neurones artificiels pour expliquer certains comportements humains et animaux et la cognition d'une manière générale. Donc on a la motivation commune de comprendre l'intelligence, de comprendre les principes sous-jacents à l'intelligence. Et à partir de ça, on peut avoir deux approches. Une qui est d'étudier l'intelligence humaine et animale, et une autre qui est de construire un objet intelligent en suivant le principe érigé par le physicien célèbre Richard Feynman, qui a dit on ne comprend pas vraiment quelque chose tant qu'on ne l'a pas construit soi-même. Donc en ayant la fibre de l'ingénieur, si vous voulez, ma motivation était plutôt de construire une machine intelligente pour savoir quels sont les principes sous-jacents qui sont vraiment importants.
Et donc aujourd'hui, quelle est votre langue commune?
La langue commune, c'est ce qu'on appelle les neurosciences computationnelles en bon français. C'est un mot en pratique un petit peu anglais. Donc ce sont les modèles informatiques qui permettent d'expliquer un petit peu certains fonctionnements, mais à un niveau très, abstrait, on peut dire. Sans vraiment modéliser dans tous les détails. L'analogie peut-être que j'utilise un petit peu trop souvent, mais c'est l'analogie entre les oiseaux et les avions. Les oiseaux et les avions, bien sûr, apparaissent comme étant très différents, bien qu'ils aient tous les deux des ailes. Mais les principes sous-jacents au vol des avions et des oiseaux est le même. Donc c'est un petit peu ça qui permet de connecter les recherches en intelligence artificielle et en neurosciences, étant donné qu'on utilise des modèles qui sont un petit peu inspirés du cerveau.
Vous faites ensemble ce récit, cette histoire de l'intelligence en remontant très très loin et forcément en vous interrogeant sur le futur de l'intelligence. Où est-ce que tout ça va nous mener, de l'intelligence humaine à l'intelligence artificielle, pour comprendre pour vous aujourd'hui, là, nous en sommes où? On est au stade de quoi? On est encore au stade de l'évolution ou on est vraiment entré dans une révolution de l'intelligence?
Alors, on est dans une révolution qui a été une révolution scientifique et technologique, disons, dans les 20 dernières années. Une révolution scientifique qui n'a pas été tout de suite, évaluée à sa juste valeur, qui a pris environ 20 ans à être évaluée à sa juste valeur et à conduire à une révolution technologique. Donc la raison pour laquelle on entend parler d'intelligence artificielle ces dernières années, c'est grâce à cette révolution technologique qui est due à ce qu'on appelait en anglais le deep learning, l'apprentissage profond. C'est un nouvel ensemble de méthodes en fait pour entraîner les machines au lieu de les programmer directement, qui est un petit peu plus puissante que les techniques passées pour faire ce genre de choses. C'est ça qui conduit à des systèmes qui peuvent reconnaître les images, traduire les langues, reconnaître la parole de manière fiable, etc. Donc c'est un peu pour ça qu'on parle de ça en ce moment. Il y a plein d'applications pratiques dans les transports, la santé, l'accès à l'information, etc. Maintenant, ces méthodes sont très limitées en sens que on n'a pas de technique aujourd'hui qui permette de reproduire les capacités d'apprentissage des animaux et des humains. Les animaux et les humains sont beaucoup plus efficaces dans leur apprentissage que ce qu'on peut faire avec les machines à l'heure actuelle.
Et est-ce que tout ça vaut aussi, vous dites sur les capacités d'apprentissage, est-ce que ça vaut aussi pour les émotions? Parce que ça, c'est un des grands débats aujourd'hui que vous ouvrez ensemble aussi dans cet entretien, cet échange croisé. Est-ce que les machines autonomes pourront demain ressentir, éprouver les mêmes émotions que les hommes?
Alors c'est très probable, oui, en tout cas des émotions très similaires. Même deux individus, deux personnes ne ressentent pas les mêmes émotions parce que leurs expériences sont différentes, leurs corps sont différents, etc. Donc il n'y aura pas une possibilité de reproduction exacte, mais les machines autonomes auront des émotions. C'est un petit peu inévitable parce que les émotions sont inséparables de l'intelligence. Donc tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, hein. C'est une opinion personnelle. Mais les émotions sont liées à la capacité d'anticipation, par exemple. Donc, quand on a peur, c'est qu'on anticipe une situation qui peut devenir dangereuse et dont on ne peut pas prévoir le futur, par exemple. Et les machines autonomes intelligentes devront pouvoir avoir cette capacité à prédire, à planifier, et donc à anticiper le résultat positif ou négatif d'une séquence d'action ou d'une situation. Donc, les émotions sont vraiment insécables de l'intelligence autonome. Maintenant, la plupart des machines qu'on va qualifier d'intelligentes ne seront pas vraiment autonomes, c'est-à-dire qu'elles sont faites pour conduire votre voiture, détecter des tumeurs dans les images médicales, etc. Et celles-là n'auront pas besoin d'autonomie, donc n'auraient pas d'émotion.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des machines ne possèdent pas leur propre intelligence, donc pas leur propre registre émotionnel.
Alors, pour l'instant, il n'y a aucune machine, en fait, qui est capable d'émotion au sens où on pourrait la définir.
De la manière dont vous définissez l'émotion humaine liée à l'intelligence humaine. Ouais. Donc, comme reflet, réflexion d'une sorte d'anticipation de ce qui va arriver.
Mais il n'y a rien de magique dans les émotions. Les émotions sont calculées par le cerveau, comme le reste. Et on peut imaginer effectivement des machines intelligentes qui ont une partie de leur cerveau logiciel ou électronique qui calcule leur contentement. C'est un petit peu similaire au ganglion de base dans le cerveau humain.
Stanislas Dehaene, il a cette assez belle définition de la mémoire en disant que la mémoire n'est pas, c'est pas regarder vers le passé, c'est des systèmes qui projettent les infos vers le futur. Qu'en gros, si on mémorise une information, c'est aussi avec cette idée, comme vous le disiez pour les émotions, qu'elle me servira peut-être plus tard, donc je vais stocker pour pouvoir projeter vers le futur. Est-ce qu'on peut dire, comme pour la mémoire, qu'il n'y a pas une mémoire mais des mémoires? Est-ce qu'on peut dire la même chose de l'intelligence, qu'il n'y a pas une intelligence mais des intelligences?
Oui, certainement. Il y a plusieurs types d'intelligence, plusieurs capacités pour des situations particulières. On a l'impression, l'illusion peut-être, que l'intelligence humaine est générale, mais en fait elle est relativement spécialisée, elle peut être différente d'une personne à l'autre. Donc certaines personnes sont très portées sur les sciences, les mathématiques, etc., les choses qui sont un petit peu prédictibles, avec des règles très fortes, et puis d'autres qui sont plutôt mieux pour... par exemple, prédire les comportements humains ou les interactions sociales. Et c'est une sorte différente de modélisation de notre environnement.
Le grand débat aujourd'hui, Yann Lequin, c'est de savoir si nous aurons toujours, nous les hommes, le contrôle des machines et des intelligences artificielles que nous créons. Vous le dites, comme beaucoup de vos confrères, la technique n'est pas mauvaise en soi. C'est ce que l'homme en fait, l'homme qui est derrière, qui peut en créer des mauvais usages ou des mauvaises intentions. Vous êtes toujours sur cette ligne-là ?
Oui, je suis toujours sur cette ligne-là. En fait, il y a un petit peu un fantasme qui est... On est un petit peu conditionné par les films de science-fiction, Hollywood, les scénarios, la Terminator, où on a l'impression que la volonté de dominer est corrélée à l'intelligence, c'est-à-dire qu'automatiquement, si on fait des machines intelligentes, elles auront la volonté de dominer l'humanité. Cette idée est fausse. La volonté de dominer n'est pas liée à l'intelligence. Elle est liée chez les humains au fait qu'on est des animaux sociaux et qu'on a besoin d'avoir une certaine influence sur nos semblables pour survivre. La volonté de dominer, par exemple, n'existe pas chez les animaux non sociaux tels que les orang-outans. Donc, il est très possible qu'on fabrique des robots ou des machines intelligentes dont les pulsions de base et les capacités de base seront plus proches de celles des orang-outans que des humains. On construira en elles, de manière immodifiable, si vous voulez, le fait qu'elles doivent servir l'humanité. En ce qui concerne les individus dans l'humanité, le désir de dominer n'est pas corrélé à l'intelligence. C'est pas les gens les plus intelligents qui veulent être les chefs de la planète, par exemple.
Ah bon ?
Bon, on a des exemples frappants aujourd'hui.
Je vous écoute.
je crois même pas que c'est la peine de citer des noms. Mais
Mais souvent, ces gens-là, on a tendance à penser qu'ils sont bêtes et un peu fous, et ils s'en sortent pas si mal. Mais ils sont peut-être justement l'intelligence de nous renvoyer à notre propre folie.
Voilà.
Yann Le Cun, sans vous mettre dans une situation compliquée, en donnant des noms, vous citiez la science-fiction. Je vous propose qu'on débranche quelques instants avec 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, 68.
Dave. My mind is going. I can feel it. I can feel it. My mind is going. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I can feel it. I'm afraid.
Voilà quand Dave débranche Hal, avec qu'il va vers son centre nerveux et le déconnecte. Là, on sent aussi une machine qui est dans l'état de dans la peur. Qu'est-ce que la science-fiction pour vous prévoyait de si faux finalement aujourd'hui? En quoi ces projections qu'on peut avoir, qui répondent pas simplement aux craintes de Hal mais aussi aux nôtres, ne peuvent être que le fruit de l'imagination? Comment vous pouvez nous garantir que tout ça n'arrivera pas?
Alors ce film a eu une grosse influence en fait. Moi j'ai vu ce film quand j'avais 9 ans, ça a changé ma vie d'une certaine manière, on peut le dire. Enfin, ça m'a ouvert justement à l'idée que des machines pourraient être intelligentes. J'étais déjà un petit peu passionné quand j'étais enfant par le mystère de l'intelligence, l'apparition de l'intelligence dans l'humanité, etc. Et c'est peut-être un petit peu ça qui a influencé par la suite mon intérêt pour ce sujet. Donc oui, dans cette scène, ce scénario a été conçu en 1964, donc tout au début des balbutiements en fait de l'intelligence artificielle qui existait depuis moins de 10 ans. Et il y a certaines choses qui sont bien vues, c'est-à-dire le fait, par exemple, que bien que ce soit pas explicitement mentionné, que Hal n'est pas entièrement programmé, mais entraîné. Des choses qui sont fausses, c'est-à-dire le fait que Hal dit pendant le film qu'il n'est pas capable d'erreur. Ça, c'est pas possible, en ce sens que une machine intelligente, nécessairement, si elle veut prendre des décisions, doit prendre des décisions qui sont en présence d'incertitudes, et nécessairement elle va faire des erreurs. Donc pas parce que la machine est mal programmée ou mal entraînée, mais simplement parce que la situation est compliquée et que quelquefois on doit prendre des décisions sans avoir l'information complète ou sans pouvoir trouver la réponse optimale. Par ailleurs, un autre élément qui est un petit peu curieux, c'est que Hal n'est pas copiable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sauvegarder toute la mémoire de Hal pour la reproduire dans un autre exemplaire de cet ordinateur. C'est un individu unique. Peut-être à cause du fait que ces modules mémoire sont censés être des mémoires holographiques, etc. Bon, ce sont des choses qui n'existent pas, mais ou pas vraiment. Donc il y a des choses qui sont très vraies dans 2001 c'est l'espace, et puis d'autres et dans la science-fiction en général. La science-fiction plus récente fait de gros contresens vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Donc par exemple, alors le fait par exemple que il y a un mystère de l'intelligence artificielle qu'il faut trouver, et qu'une fois qu'on l'aura trouvé, on pourra fabriquer des machines intelligentes. Ça va pas se passer comme ça. Ça va pas être un événement. Ça va être une progression. Avec des essais, des erreurs, des retours en arrière, etc. C'est ce qui s'est passé dans l'histoire jusqu'à présent. Une autre erreur, c'est que une compagnie ou un laboratoire va être très significativement en avance sur les autres et va découvrir ce secret avant tout le monde et va dominer la planète. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. La science est en général ouverte. Donc, par exemple, à Facebook, on pratique la recherche ouverte, on publie tous nos résultats parce que c'est un problème scientifique, c'est pas un problème technologique pour l'instant. L'autre légende un petit peu, c'est le fait que Encore une fois, nécessairement, les machines auront les mêmes traits, les mêmes caractéristiques que l'intelligence humaine. On est en fait exposé uniquement à l'intelligence humaine et on n'a pas d'idée des caractéristiques d'autres types d'intelligence. Et donc on attache par défaut aux ordinateurs ou aux machines intelligentes les mêmes qualités, les mêmes défauts que la nature humaine. Donc cette idée que les machines nécessairement voudront dominer si elles deviennent intelligentes, cette idée qu'elles seront curieuses nécessairement, cette idée qu'elles voudront s'émanciper, qu'elles voudront faire tout ce que font les humains, c'est le thème de certains films de science-fiction par exemple. Et je ne pense pas que ce soit vrai. Ce sont des comportements qui sont purement humains, qui ont été construits en nous dans l'évolution, par l'évolution, et qu'on ne va pas nécessairement construire dans nos machines.
Que l'intelligence artificielle ne pourra jamais être plus qu'une pâle copie, qu'une simple réplique amoindrie de l'intelligence humaine.
Non, pas du tout. Il est très possible que d'ici quelques temps, c'est pas pour demain, les machines soient plus intelligentes que les humains dans presque toutes les tâches qui intéressent les humains.
Mais est-ce qu'il y a encore aujourd'hui une guerre des intelligences, comme il y a pu y en avoir une dans les années 50, 60? Est-ce qu'on en est encore à se demander s'il faut mécaniser la pensée ou s'il faut copier le cerveau? Quels sont les débats, les polémiques qu'il y a aujourd'hui entre les chercheurs sur cette question de l'intelligence?
Alors, oui, c'est intéressant. Donc il y a plusieurs courants de l'intelligence artificielle. Il y a un courant qui est relativement ancien, qui date des années 60-70, et qui remonte peut-être même à plus loin, et qui essaie de reproduire les raisonnements mentaux de niveau élevé, c'est-à-dire la logique, la déduction, le raisonnement, etc. D'autres efforts qui se focalisent particulièrement sur des problèmes particuliers, comme par exemple jouer aux échecs ou ce genre de choses, où on peut trouver le chemin le plus court entre une ville et une autre pour planifier un voyage. Dans le temps, ce genre de problème faisait partie de l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est juste un algorithme qui est passé dans la boîte à outils commune. Il y a les gens dont je fais partie qui pensent que les capacités d'apprentissage sont inséparables de la capacité qui sont inséparables de l'intelligence, la perception, le raisonnement et l'action, mais qui essayent de comprendre les principes sous-jacents à l'apprentissage en s'inspirant un petit peu de la biologie, mais sans nécessairement la copier. Et puis il y a des gens qui sont un petit peu plus extrêmes dans cette direction et qui essaient de copier le fonctionnement du cerveau dans ses moindres détails en espérant que l'intelligence artificielle puisse émerger de ces détails. Le problème de ça, c'est que si on copie sans comprendre, on aura beaucoup de mal à savoir quels détails sont importants. On va peut-être faire l'équivalent d'avion avec des plumes.
Ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant, peut-être même pour comprendre l'intelligence humaine, pour étudier les maladies mentales, mais pas pour construire des machines intelligentes.
Il est l'un des pionniers du deep learning, cette méthode d'apprentissage. Il est aussi le chef de l'intelligence artificielle chez Facebook, Yann Lequin, qui co-signe avec Stanislas Dehaene La plus belle histoire de l'intelligence, et notre invité jusqu'à 13h30. France Culture, il est 13h20.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Yann Lequin, vous nous dites, comme beaucoup d'autres, qu'aujourd'hui il ne faut pas s'inquiéter, que la technique n'est pas intrinsèquement mauvaise. Sauf que un certain nombre de papes des nouvelles technologies, d'esprits éclairés aussi, comme Stephen Hopkins ou Elon Musk, l'entrepreneur, le PDG de Tesla Motors, aujourd'hui nous mettent en garde. Écoutons.
Elon Musk en appelle au gouvernement pour éviter que l'intelligence artificielle n'anéantisse le monde. Dans un discours à la National Governor Association, une association qui réunit les gouverneurs des États américains, samedi 15 juillet, le président directeur général de Tesla et SpaceX a réitéré ses craintes sur l'intelligence artificielle. Depuis quelques années, Elon Musk s'évertue à nous avertir sur les risques de l'intelligence artificielle. Le chef d'entreprise d'origine sud-africaine a même réussi à créer un débat mondial autour de la question, qu'il considère comme la plus grande menace de l'humanité, juste à côté de la bombe nucléaire.
Voilà, et puis j'ai perdu mon job au passage, ce commentaire d'actualité. Donc ces propos d'Elon Musk sont racontés ici par une voix, un robot. Déjà ces mises en garde, comment vous les expliquez, puisqu'il n'y a a priori, d'après vous, aucun souci à se faire?
Alors j'ai beaucoup d'admiration pour Elon Musk, pour tout
là,
un tas
délire,
de choses.
Hein.
Pour ses... Mais dans ce domaine particulier, je pense qu'il se fourvoie. Je crois qu'il est, il était un petit peu trop optimiste d'une certaine manière sur la rapidité avec laquelle on va faire des progrès vers l'intelligence artificielle générale et supérieure à l'intelligence humaine.
Donc il est juste déçu.
C'est-à-dire qu'il a, non, c'est pas trop ça, mais il a parlé des gens qui étaient, disons, un petit peu trop rêveurs, qui pensaient que d'ici 5 ou 10 ans on allait faire des machines intelligentes et que le problème a été résolu. Et donc il s'est dit, ensuite il a lu des livres tels que le livre Superintelligence de Nick Bostrom, qui est un philosophe à Oxford, qui met en garde justement sur des scénarios catastrophes, mais qui sont pour des gens attachés à la technologie, qui sont très 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 improbables. Donc il y a très peu de gens qui sont vraiment sérieux dans le domaine, qui se posent ces questions et qui ont peur d'un scénario la Terminator. Maintenant, il y a tout un tas de questions sur le déploiement de l'intelligence artificielle qui sont effectivement des questions importantes dont il faut débattre, sur les dangers de déploiement de techniques automatiques, d'apprentissage automatique, etc., qui sont pas nécessairement liés directement à l'intelligence artificielle, mais aux techniques qui y sont liées, de manipulation des données, etc., etc., de biais dans les données. Ce sont des questions très importantes auxquels tous les grands acteurs s'intéressent et ont des groupes spécialisés pour travailler sur les questions.
Et la voix, on l'entendait à l'instant avec ce robot, comment l'intelligence artificielle s'en empare-t-elle? Pourquoi la voix semble être aujourd'hui presque l'outil du futur?
Alors c'est l'interaction vocale, donc reconnaissance de la parole et synthèse vocale, sont des domaines qui ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Donc on a des voix qui sont maintenant très naturelles, peut-être plus naturelles que ce qu'on vient d'entendre, et des systèmes de reconnaissance de la parole qui sont très fiables. Donc ça permet effectivement d'avoir de pouvoir dialoguer avec son ordinateur maintenant, ou avec son téléphone mobile. Maintenant, c'est très très limité, en sens que les capacités de raisonnement et de sens commun des machines est extrêmement limitée, et donc les assistants virtuels qu'on peut commander par la voix, en général, s'en tirent par une entourloupe quand on sort de leur domaine d'expertise. Ils peuvent nous donner la météo, l'état du trafic et jouer de la musique, mais si on sort un petit peu du scénario, ils vont pas être capables de tenir un dialogue. Donc c'est quelque chose sur lequel les gens dans le domaine travaillent d'arrache-pied, donner un petit peu de bon sens aux machines.
Yann Lequin, il y a quand même des craintes qui aujourd'hui sont étayées par un certain nombre de rapports, et notamment dans cette automatisation, robotisation, il y a celle du monde du travail. Encore récemment, un rapport du World Economic Forum a été rendu et montrait que, en France, votre pays, les salariés seraient très mal armés pour affronter ces changements, ces évolutions, et que l'inquiétude semble quand même assez justifiée de ne pas pouvoir faire face à l'avènement de l'intelligence artificielle dans le monde du travail, à cette automatisation croissante qui est en marche. Ces craintes, pour vous, elles sont tout simplement stériles. Vous les désamorcez ou vous les expliquez? Et quand même qu'il va falloir apprendre à se positionner par rapport à ça et à réagir aussi.
Alors, ces craintes ne sont pas stériles, en ce sens qu'il y a de véritables transformations technologiques qui sont en train de se passer, mais elles ne sont pas de nature qualitativement différente aux précédentes transformations technologiques qui sont passées ces dernières décennies ou même ce dernier siècle. Donc on a assisté à l'arrivée de l'Internet, de l'ordinateur personnel, de la voiture, de la radio, de la télévision, etc. Toutes ces nouvelles technologies ont déplacé des métiers et ont résulté en des transformations assez profondes en fait de la société. L'intelligence artificielle va conduire à ce genre de transformation aussi. Le problème, c'est qu'elle elle risque d'être très rapide. Alors, les économistes disent que ce qui va limiter la pénétration de ces technologies dans l'industrie et dans la société, c'est justement la capacité des gens à se former à cette nouvelle technologie. Donc si il y a quelque chose que les pays doivent faire pour tirer parti des progrès technologiques liés à l'intelligence artificielle, c'est investir massivement dans l'éducation pour que les salariés, les gens en général puisse tirer parti, le pays puisse tirer parti de ces transformations.
Il y a aujourd'hui, Yann Lequin, une affaire qu'on ne peut pas ne pas évoquer ensemble, des dizaines de milliers de comptes piratés, des données volées, un piratage massif chez Facebook, votre boîte dont ont été victimes les utilisateurs. Alors ce serait plutôt une escroquerie qu'une intention politique, ça révèle normalement des failles qui sont passablement inquiétantes, des failles de sécurité. On espère que vos données, vos recherches sont à l'abri, peut-être plus que vos données personnelles, celles de votre compte Facebook à vous. On se souvient du mea culpa de Mark Zuckerberg après l'affaire de Cambridge Analytica. Aujourd'hui, est-ce que vous vous demandez, vous, votre recherche ou vos travaux, au service de quelle vision du monde vous la placez ?
Alors, donc tout d'abord, je dois vous préciser que la sécurité informatique n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Donc c'est très difficile pour moi de commenter sur les détails de cette histoire. Je me focalise principalement sur la recherche fondamentale en intelligence artificielle, donc en fait relativement peu sur les applications qui sont déployées et développées par des groupes avec lesquels on collabore.
C'est quand même la suite logique, donc en fait il faut voir aussi ce qui va se passer après.
Voilà, alors absolument. Donc l'intelligence artificielle en fait est absolument centrale dans les opérations de Facebook aujourd'hui et sert entre autres justement à limiter les exploitations de la plateforme par des acteurs qui ont des vues pas forcément bénéfiques. Donc les faux comptes, la propagande, les fausses l'infox, comme on dit en français maintenant, etc. L'intelligence artificielle est utilisée pour détecter ce genre de choses et limiter leur impact. Par exemple, les vidéos de propagande de Daesh sont détectées très rapidement de manière automatique et éliminées de la plateforme pratiquement à 100%. Pas exactement à 100%, mais pratiquement. Il y aura toujours des erreurs dans ces systèmes automatiques. Ils sont en général épaulés aussi par des modérateurs humains. Il y a des cas compliqués qu'on peut pas traiter automatiquement. Mais l'intelligence artificielle, en fait, joue un rôle très positif dans ce domaine-là. Et il y a eu une évolution, en fait, ces deux dernières années à Facebook, dans lequel Facebook, en tant que plateforme, est devenu bien meilleur que par le passé à détecter ce genre d'action. Alors, c'est un petit peu séparé des questions de sécurité informatique, qui est un domaine complètement différent, qui n'est pas mon expertise.
Non, mais la question, quand même, c'est quel projet, quelle vision.
Le projet, c'est
connecter
le monde.
Vous souhaitez servir.
C'est connecter le monde. C'est connecter les gens les uns avec les autres. Donc, par exemple, éliminer les barrières de langage, permettre aux gens de communiquer dans leur langue natale, dans leur langue favorite, et de communiquer avec des gens qui ne parlent pas leur langue, grâce à, par exemple, la traduction automatique. Connecter les gens les uns avec les autres. Culturellement, je pense que c'est un projet, c'est le projet de Facebook, c'est un projet qui me motive aussi. À terme.
Et vous avez donc confiance dans les gens, dans les personnes, dans les mains, entre les mains desquelles vous confiez vos recherches aujourd'hui, votre savoir.
La recherche qu'on pratique, il y a très peu de secrets dans notre recherche. Il n'y a pas de secret, en fait. Toute la recherche qu'on fait est ouverte, elle est publiée. De telle manière parce que n'importe qui, en fait, peut y accéder. C'est sûr.
Oui, faut-il encore site. Que n'importe qui puisse la déchiffrer.
Puisse la déchiffrer, bien ouais. sûr. On distribue notre code en open source, etc. C'est de la recherche ouverte. On essaie d'essaimer un petit peu la communauté de recherche internationale à travailler sur des problèmes intéressants et de les aider en fournissant des outils, en faisant de la recherche nous-mêmes, etc. Donc, il arrive très souvent, par exemple, qu'on publie un résultat et puis 3 mois après, Google publie un résultat qui améliore le nôtre et puis 3 mois après, une université, etc. etc. Donc c'est un problème scientifique, c'est pas un problème technique qu'on essaie de résoudre et la recherche est ouverte.
Merci beaucoup à vous Yann Lequin. Merci. La plus belle histoire de l'intelligence avec Jacques Girardon et Stanislas Dehaene vient de paraître aux éditions Robert Laffont. Un grand merci aussi à toute l'équipe de La Grande Table.